Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Gwendoline Troiano, Aliette Ovin et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Nicolas Delmas.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Notre série consacrée au risque de récession mondiale s'achève aujourd'hui, 12 ans après la crise des subprimes, tandis que la dette privée s'envole et que le commerce international ralentit, la crainte d'un nouveau choc financier refait surface. Une crise qui s'inscrirait dans l'histoire longue des cycles économiques, théorisée dès le 19e siècle, en réponse aux secousses engendrées par la révolution industrielle. De Juglar à Schumpeter, les économistes ont cherché à identifier la régularité de phénomènes d'expansion et de dépression. Ce sont ces théories et les critiques qu'elles ont suscitées que nous allons examiner aujourd'hui. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons repenser les cycles de l'économie en compagnie d'Anne-Laure Delatte, directrice adjointe du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale et responsable du programme de recherche macroéconomie et finances internationales, en compagnie également de Pierre Dauques, en duplex de Nice, professeur émérite à l'université Lumière Lyon 2 et auteur de cet ouvrage « Le capitalisme et ses rythmes, 4 siècles en perspective » paru aux éditions Classique Garnier. À 14h50, on retrouvera le journal de l'écho présenté comme chaque jour par Xavier Martinet. Anne-Laure Delatte et Pierre Dauques, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors peut-être peut-on commencer, Pierre Dauques, par définir ce qu'est un cycle économique. Ce que les théoriciens de l'économie observent très tôt, c'est que la croissance et la crise sont inhérentes au fonctionnement du capitalisme et s'enchaînent avec une certaine régularité.
Oui, vous avez raison de dire une certaine régularité. L'idée de cycle, c'est l'idée de est très liée à l'idée de périodicité et des périodes d'expansion sont suivies souvent d'une période de crise paroxystique, de retournement brutal, et par la suite, on a une phase de récession ou de dépression. Et lorsque cette dépression s'est suffisamment développée, on a une reprise d'abord timide et puis les affaires reprennent jusqu'au moment où la confiance revenant, une phase d'exubérance se développe, elle devient irrationnelle et là, avec l'augmentation de l'endettement, on risque d'avoir et on a un retournement brutal.
Alors ces phases
de... C'est ça, ce phénomène, il a une dimension réelle, une dimension financière, les deux étant très profondément liés, et on observe cela, disons, depuis le début du 19e siècle
et
pendant
constate...
la totalité du 19e siècle. Je dirais pas jusqu'à nos jours, parce qu'on a une période où cette périodicité, cette alternance entre des phases d'expansion et des phases de récession, avec une crise au milieu, disparaît pendant les années dites des 30 glorieuses.
Alors Pierre Dauques, on va pas aller trop vite en besogne, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de théories, des cycles qui sont définis tout au long du 19e et du 20e siècle. D'abord, un mot peut-être, alors on parlera de la question financière dans une seconde partie de l'émission, mais d'abord, dire que ces phases de croissance ou de décroissance peuvent être plus ou moins fortes. Ça dépend par exemple si la crise est conjoncturelle ou structurelle, et dire aussi peut-être que ces cycles sont plus ou moins longs. Ce qu'on a pu observer dans l'histoire, c'est que ces cycles, selon certains théoriciens, peuvent durer 5 ans comme ils peuvent durer un siècle entier.
Oui, si on veut, mais ce ne sont pas les mêmes cycles et ce ne sont pas les mêmes phénomènes qui sont à l'origine des cycles courts, des cycles longs. C'est des phénomènes très différents. Le cycle classique, le cycle Juglar, qui a été repéré effectivement au début du 19e, qui a retrouvé son nom avec l'économiste Clément Juglar bien plus tard, mais ça n'a pas d'importance, il durait entre 8 et 10 ans, tandis que les cycles qui ont reçu le nom de Kondratiev, c'est Schumpeter qui a donné ces noms, dure une cinquantaine d'années. Et ils sont extrêmement différents. Les premiers sont essentiellement, les premiers, les cycles classiques ou jugulaires, sont essentiellement liés au rythme de l'investissement. Et les secondes sont plutôt à mettre en relation avec les grandes innovations, les innovations majeures.
Alors arrêtons-nous un petit peu sur les premiers. D'abord, Pierre Decaisse, donc vous avez parlé de Juglar, effectivement, qui bâtit une théorie des cycles au XIXe siècle. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'avant, il y avait des fluctuations économiques qui dépendaient surtout des récoltes. Et alors, justement, Juglar va bâtir cette théorie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quelle est sa méthode ?
Non, mais Juglar est un de ceux parmi de très très nombreux théoriciens qui travaillent tout au long du XIXe siècle sur ces crises. Le mieux, c'est d'essayer de comprendre la diversité des théories, les blocs de théories. Alors, si vous voulez, il y a d'abord deux types de théories qui sont très différentes. Ceux qui croient au cycle exogène, et ceux qui croient aux cycles endogènes. Alors, les cycles exogènes, c'est des cycles qui sont dus à des chocs extérieurs. Comme, par exemple, de nos jours, on pourrait craindre un choc venu des problèmes que pose le commerce international.
Ou l'environnement.
Ou l'environnement, ou le climat exogène. Et les plus intéressants, à mon sens, sont les analyses endogènes du cycle, c'est-à-dire l'idée que c'est l'expansion qui produit la dépression, et la dépression elle-même conduit à une reprise et à des phénomènes qui vont nous amener à une nouvelle expansion.
Je voudrais faire réagir à Anne-Laure Delatte, Pierre Decaisse, un instant. Je voudrais simplement faire réagir à Anne-Laure Delatte sur cette question choc exogène, choc endogène. On voit que c'est aussi une ligne de clivage entre économistes hétérodoxes et orthodoxes.
Oui, en tout cas, c'est vraiment effectivement un point très intéressant pour comprendre la théorie des cycles en général et la théorie des cycles financiers en particulier, comme on vient de l'expliquer. Effectivement, est-ce que j'ai une récession qui est liée à un choc exogène, c'est-à-dire une mauvaise saison ou aujourd'hui une guerre commerciale, ou alors est-ce que il y a des phases d'emballement qui vont automatiquement être suivies par une phase de crise, une phase de panique. Et sur les cycles financiers, en particulier, dont on parlera peut-être après, c'est vraiment un clivage parmi les économistes où vous avez un Minsky dans les années 70, à la fin des années 70, qui va mettre en lumière une dynamique endogène, c'est-à-dire à partir du moment où les prix des actifs commencent à augmenter, j'ai une phase d'emballement, les gens sont prêts à investir, à acheter des titres, et tout d'un coup, alors le tout d'un coup, on essaye de comprendre d'où il vient, mais tout d'un coup, j'ai une perte de confiance, et là, une phase de panique et de crise, où les gens vont vendre leurs titres. Ça, c'est la théorie de Minsky qu'on commence à intégrer dans nos analyses un peu plus standard aujourd'hui, mais toutes les années 80, même années 70, 80, 90, en gros, on est sur des théories à la FAMA qui nous disent, non mais attendez, de toute façon, les marchés financiers sont rationnels, tous les prix sont le reflet des valeurs fondamentales, des titres, donc il n'y a pas de raison qu'on s'éloigne de l'équilibre. Mmh. Et si on s'éloigne de l'équilibre, ça n'est pas un phénomène endogène, c'est juste que j'ai eu un choc, j'ai eu une mauvaise saison, j'ai quelqu'un qui a pris une mauvaise mesure politique. Vous voyez, donc c'est vraiment... Ça a vraiment façonné la façon de comprendre les cycles financiers et la dynamique des marchés financiers pendant près de 40 ans.
Et ces deux interprétations ont alterné au fur et à mesure de l'histoire. Alors, on a parlé des cycles de Juglar. Alors, il y a aussi ceux de Joseph Kitchin qui sont un peu tombés dans l'oubli, plus connus et plus déterminants dans l'histoire économique, le cycle de l'économiste soviétique Kondratiev.
On parle de cycles, mais d'observation des cycles, alors même qu'on n'a pas de théorie de la croissance. On n'a pas de théorie de la croissance, on a beaucoup de théories des crises, et on a l'observation des cycles. Et du coup, par exemple, Kondratiev va formuler un certain nombre d'hypothèses concernant l'explication des régularités de long terme qu'il a observées, c'est-à-dire qu'il y aurait à peu près de 20 une phase de 20 à 30 ans où la croissance est plus rapide, où les crises sont moins nombreuses, où elles sont moins profondes, et puis après une deuxième phase dans laquelle au contraire on a beaucoup plus de crises, beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus profondes surtout. Et donc l'opposition entre ces périodes, il la constate, il donne quelques interprétations, et celui qui va risquer une interprétation unifiée, emboîtant les cycles les uns dans les autres et donnant une cause unique à tous ces cycles, c'est Schumpeter.
Voilà l'économiste Arnaud Parianti. Alors avant de parler de Schumpeter, Pierre Decaisse, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être en quelques mots Kondratiev, nous dire qui il était et comment il élabore ses hypothèses, et donc peut-être aussi dans quel contexte?
Oui, Kondratiev est un économiste soviétique et qui va d'ailleurs avoir... et subir les conséquences de ses positions à la fois économiques et politiques, puisqu'il disparaîtra au goulag, sans doute fusillé. C'est un homme qui a travaillé sur le cycle long, et en particulier qui est devenu, qui a pris des positions particulièrement dangereuses par rapport au pouvoir bolchevique, dans la mesure où, pendant ces années de dépression longue, il était un économiste qui anticipait la possibilité d'un redémarrage de l'économie dans les pays capitalistes, alors que en Union soviétique, il était presque obligatoire de penser que c'était la crise finale du capitalisme. Et quand il a commencé à dire non, il y aura un retour à des phases d'expansion, il s'est mis évidemment dans une situation dangereuse. En plus, il était partisan de réformes importantes, en particulier dans la question de l'agriculture, les zones rurales, une certaine, disons, certaine forme, sinon de privatisation, du moins de collectivisation plus adoucie. Et le résultat, c'est qu'il a été éliminé.
Et alors, qu'est-ce qu'on retient de Kondratiev, Pierre Decaisse? Quel a été son apport théorique?
On a retenu surtout, et Schumpeter particulièrement, la possibilité, non pas de cycle, je vais pas employer le mot, mais de vagues longues. Pourquoi pas cycle? Mais parce que les cycles, c'est beaucoup trop périodique, c'est beaucoup trop régulier. Il s'agit simplement, là aussi, d'alternance, de type générationnel. 25 ans d'un côté, 25 ans de dépression de l'autre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est la relation qui peut exister avec le cycle classique. En réalité, on peut distinguer deux types de crises, des petites crises, des récessions courantes et des grandes crises. Et ces grandes crises, elles ont un certain nombre de caractéristiques. D'abord, elles sont en général historiquement marquées par une crise immobilière et une crise financière. Mais aussi et surtout, ces grandes crises sont caractéristiques de la crise d'un système économique. C'est l'ordre productif lui-même qui rentre en crise. Et on revient à votre question de la crise structurelle. Et ces grandes crises, comme la crise des années 30, comme sans doute aussi la crise de 2008, si proche de nous malgré les 12 ans, ce sont des crises qui marquent la fin d'un régime économique et un temps de maturation d'un nouvel ordre productif.
On va voir les nombreux points communs entre la crise des années 30 et la crise de 2008, en effet. Mais alors, ce qu'il faut retenir de Kondratiev et ensuite de Schumpeter, peut-être, c'est effectivement que ce qui permet de passer d'une phase de dépression à une phase d'expansion, c'est l'innovation. Et l'innovation qui, chez Schumpeter, fonctionne par grappe d'innovation, Pierre Decaisse.
Oui, bien sûr, Schumpeter met l'accent essentiellement sur les grandes innovations. Mais Schumpeter,
la machine
c'est pas
à vapeur,
la totalité
le chemin
de l'explication. Et ces grappes d'innovation, c'est ces innovations majeures. Alors, je parle la machine à vapeur, le chemin de fer, la révolution industrielle de la fin du 19e siècle, l'électricité, les grandes innovations. Mais au-delà même de ces innovations qui sont des innovations technologiques, de plus en plus, on pense que c'est un ensemble, tout un système qui entre en crise et qui bascule en quelque sorte à l'occasion d'une grande crise comme celle des années 30. On se rend compte que le fonctionnement du système antérieur n'est plus possible. Et c'est ça la crise.
Et il y a des débats autour de ces questions, Pierre Dokès, débats notamment autour du fait que on se demande si l'innovation est cyclique, comme le dit Schumpeter, ou continue, par exemple.
Mais encore une fois, il y a eu une période où on a vraiment cru à la fois à des cycles relativement avec une bonne périodicité, une grande régularité, et où, avec Schumpeter, on a cru aussi à la pluralité de cycles s'emboîtant. Donc, une économie multicyclique, en quelque sorte. Mais ça, c'était autour des années entre 1930 et 1950. Et ces idées ont été très largement relativisés. Et c'est plutôt dans la direction de la crise structurelle, de la grande crise structurelle, remettant en cause l'ensemble d'un système économique qu'on se tourne aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a aussi cette question de l'entrepreneur que mettait beaucoup en avant Schumpeter dans cette innovation, alors qu'aujourd'hui, peut-être chez les néo-schumpeteriens, c'est plus les institutions qui sont mises en avant pour faciliter l'innovation et aussi le fait d'avoir un cadre économique favorable?
Bien entendu, l'aspect technologique est privilégié par Joseph Schumpeter. Et effectivement, il vit à une époque où on est en quelque sorte fasciné par ces grandes innovations qui marquent profondément leur époque. Ça, c'est très caractéristique. Mais depuis, on a mis aussi l'accent sur d'autres transformations majeures. Et vous l'avez dit, les institutions, les rapports sociaux, la façon dont l'économie s'organise, la façon dont les entreprises sont gérées, les liens entre les différentes entreprises, et puis, bien sûr, toutes les relations à l'échelle mondiale. Ce que je veux essayer de faire passer, c'est qu'au-delà même de la dimension technologique, des dimensions institutionnelles, elles sont fondamentales. Les dimensions de relations internationales sont fondamentales. En quelque sorte, c'est le système dans son ensemble qui entre en crise. Mmh. On cite souvent une phrase de Gramsci pour parler de la crise, et elle est magnifique d'ailleurs. Il disait, une crise, c'est lorsque l'ordre ancien meurt et que l'ordre nouveau a peine à naître. Et il dit, et il ajoute, c'est dans cet intervalle que les ombres les plus sinistres se font jour et que les risques majeurs, y compris politiques, sont présents.
Et toute la question aujourd'hui, c'est effectivement de savoir quand surviendra la prochaine crise, puisque c'est effectivement pour cela aussi qu'on observe les cycles économiques.
Un bon indicateur d'une des causes, je dis pas la seule évidemment, mais d'une des causes du drame qui s'est noué il y a 10 ans exactement, c'était que il y avait une accumulation de dettes publiques et privées dans la période qui avait précédé. Et ça a continué après la crise à peu près au même rythme au niveau mondial qu'avant la crise. Mmh. Donc c'est si tant est que cet indicateur de vulnérabilité soit pertinent, soit juste. Alors, on est aujourd'hui dans une situation qui appelle une très grande vigilance et bien entendu une correction. Il faut s'attaquer dans le monde entier, hein, pas simplement dans les pays avancés, parce que maintenant les pays émergents ont commencé eux-mêmes de s'endetter beaucoup et beaucoup plus qu'avant.
De nombreux économistes et responsables politiques, à l'instar de Jean-Claude Trichet, l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne que l'on vient d'entendre, prédisent une nouvelle crise de grande ampleur, seulement 11 ans après celle que le monde a connue en 2008. Anne-Laure Delatte, est-ce que ce n'est pas le signe d'une accélération des cycles?
Je crois que ce que met en évidence le témoignage juste à l'instant, c'est surtout qu'on s'inquiète aujourd'hui de l'accumulation des dettes. Ça montre l'importance de comprendre à la fois le cycle de l'économie réelle, ce qui vient d'être expliqué, et le cycle financier. Les deux interagissent. Pourquoi c'est important de comprendre le cycle financier et de s'intéresser au marché financier? C'est que, bon, il ne vous aura pas échappé qu'on vit dans une économie qui est très dépendante de la dette, et on vit dans une économie où les marchés financiers sont vraiment centraux dans l'organisation de la production et de l'investissement. Tout simplement, c'est votre épargne, c'est mon épargne, qui, depuis les années 70, très progressivement, a eu de plus en plus le droit d'aller financer de l'investissement dans plein de secteurs en France et ensuite à l'étranger. C'est ce qu'on appelle la libéralisation financière. Ça a lieu depuis les années 70, et en fait, on essaye de comprendre aujourd'hui les implications que ça peut avoir sur le cycle économique réel que Pierre Decaisse vient de décrire, et sur toutes les théories que Schumpeter, Leontief ont mis en évidence.
On essaye de savoir si la dette est un bon indicateur de vulnérabilité.
Alors non seulement, c'en est un. Ça, c'est sûr, ça, on le sait. C'est-à-dire que l'accumulation des dettes dans les bilans des entreprises et des ménages, si vous avez beaucoup de dettes, à un moment, il faut être sûr que les investissements qui ont été financés par cette dette vont vraiment avoir un rendement qui va vous permettre de rembourser. D'accord ? Donc, effectivement, la question, c'est de savoir à quel niveau de dette on doit commencer à s'inquiéter. Ce qui est intéressant dans la notion de cycle financier, c'est que c'est Minsky, donc en 1977, qui relie Keynes et qui se dit, en réalité, en fait, les marchés financiers, contrairement à l'idée qu'il y a un retour à l'équilibre systématique, vous voyez, la notion d'équilibre, d'abord, elle est essentielle chez les économistes, que ça soit si on parle du cycle financier ou du cycle économique. En gros, les économistes s'interrogent toujours autour de l'équilibre. Et ce qui nous inquiète, c'est quand on est un peu trop loin de l'équilibre, en haut ou en bas.
Et en ce moment, on serait un petit peu trop loin de l'équilibre. La dette privée inquiète particulièrement, notamment en France.
Alors, on a fait des calculs au CEPI et je pourrais revenir là-dessus, mais juste en France, pour l'instant, on n'est pas trop inquiet. C'est vraiment aux États-Unis qu'on est clairement dans une phase de surchauffe qui est liée à la fois aux interventions assez irrationnelles de Trump. En fait, pas si irrationnelles que ça. Trump veut se faire réélire. Donc il fait tout pour se faire réélire, et s'il y a quelque chose dont sont conscients les politiques, c'est que si vous avez une récession, vous ne serez pas réélu. On a des résultats là-dessus dans la littérature. Si vous avez une récession, c'est-à-dire une baisse de l'activité, un ralentissement de l'activité économique, votre probabilité de réélection est hyper basse.
Donc, d'où la diminution de l'impôt sur les sociétés de 35 à 21% notamment.
D'où exactement, et d'où toutes les politiques, toutes les mesures de politique qu'il est en train de mettre en place pour mettre encore plein de bois dans la cheminée qui est déjà en train de déborder. Et quelque chose qui inquiète tout le monde aujourd'hui, c'est qu'il est en train de mettre la pression sur la politique monétaire. Or, donc la politique monétaire, il est en train de mettre la pression sur le banquier central de la Fed, le gouverneur de la Fed, alors que c'est une instance qui est censée être indépendante du gouvernement. Elle peut lui rendre des comptes, mais c'est une institution qui ne doit pas être surtout dictée, justement, par des visées électorales ou quoi.
Ce qui inquiète, c'est que si la Réserve fédérale baisse ses taux directeurs, on aura un endettement encore plus important, et ce qui rappelle un petit peu les conditions qui ont entraîné la crise de 2008.
Voilà, alors la question, elle est à quel niveau d'endettement on est, et est-ce qu'on est loin de l'équilibre ou pas? C'est ça la question. Et donc, aujourd'hui, on est capable de mesurer ce cycle économique en faisant la différence entre la tendance, donc ce qu'on pourrait appeler l'équilibre de long terme, parce qu'il y a une tendance positive dans le crédit, les prix, qui est très saine. Ça, c'est positif, ça permet de financer l'investissement, l'innovation, tout ce dont on vient de parler juste avant avec Pierre Decaisse. Sur l'économie réelle. Mais on est capable aujourd'hui, avec des mesures, avec des modèles statistiques, de distinguer la tendance du cycle, d'accord, de la composante cyclique. Et on est capable de savoir si on est en haut ou en bas, et si on est très en haut ou très en bas. Aujourd'hui, on a fait les calculs. Alors, la BRI est le champion de ça. La BRI, c'est la Banque des règlements internationaux. Il faut vraiment citer les travaux de Claudio Borio, qui, dans les années 2000, déterre les idées de Minsky. C'était pas le seul, hein. Michel Aglietta en France en parlait beaucoup, mais Boriot, lui, il est dans une position institutionnelle à la BRI, c'est l'économiste en chef. Il déterre les idées de Minsky, il dit attention, en fait le cycle financier c'est pas exogène, c'est pas vrai qu'une crise financière est systématiquement engendrée par un choc qui viendrait de nulle part, mais en réalité il y a une dynamique perverse, cette hypothèse d'instabilité financière intrinsèque de Minsky, il la remet au goût du jour.
Sauf qu'il n'a pas été suffisamment écouté, c'est seulement après la crise de 2008 en l'occurrence que Minsky et ses travaux sont revenus en grâce.
Oui, alors ça, bon, bah, ça, c'est le, c'est l'économie politique de la théorie économique. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont écrit des choses très bien il y a 40 ans et qui vont être écoutés à un moment parce que juste après une crise, on se dit, ah, bah, tiens, peut-être que ces idées étaient intéressantes. Donc, en fait, Boriot, à la BRI, avec ses équipes, il va calculer des indicateurs de cycle financier. D'accord? Et en fait, il y a trois variables très importantes qui sont, on va aller regarder le crédit. Donc le crédit bancaire essentiellement, pas que, mais en gros le crédit qu'on va donner aux entreprises, aux ménages, le crédit sur PIB, bon en gros c'est la même chose, et le deuxième indicateur très important, c'est les prix de l'immobilier. Pierre Decaize en parlait tout à l'heure, les prix de l'immobilier, en gros vous avez deux types de crises, vous avez une crise économie réelle, il s'est passé quelque chose bon, dans l'économie. Et une crise, souvent, c'est une crise immobilière. Et quand il y a une crise immobilière, alors là, c'est une crise financière et c'est quelque chose qui a une amplitude beaucoup plus importante.
Or, ce qu'on observe en ce moment, c'est que les prix de l'immobilier diminuent aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça implique, ça, Anne-Laure de Latte ?
Alors, non, en fait, ils augmentent.
Ils ont recommencé à diminuer.
Oui, oui. Excusez-moi. Donc, en fait, je vous disais, ils augmentent. En fait, ils ont été sur une phase haussière, là, récemment, qui nous inquiète. Parce que, je vous disais, donc, la BRI a fait ces calculs-là, et OCEPI, avec Maximilien Coussin et Vincent Bouvatier, on a constitué une grosse base de données, encore plus grosse que celle de la BRI, en utilisant des techniques un petit peu plus sophistiquées, etc. On a calculé les cycles financiers de 180 pays. D'accord ? Et on regarde en ce moment où en sont les prix de l'immobilier aux États-Unis, où en sont les prix de l'immobilier en France, le crédit. Et en fait, ce qu'on constate, nous, ce qui nous inquiète énormément, c'est que si vous regardez le crédit, tout va bien. On est en dessous de l'équilibre. Vous vous souvenez, ce qui est important, c'est vraiment savoir où est-ce que je suis et si je suis loin ou pas.
C'est pas le crédit qui inquiète.
Mais alors, c'est les prix de l'immobilier. En fait, les prix de l'immobilier, aujourd'hui, sont au-dessus de la tendance, largement aux États-Unis. Alors, quand je vous dis que on a parlé d'une baisse, effectivement, c'est une baisse qui est assez récente et qui pourrait, qui se passe à Manhattan et à Brooklyn, notamment dans certaines grandes villes, on commence à voir les prix baisser, mais c'était des prix qui avaient atteint des niveaux qu'on n'avait jamais vus avant. Ça peut inquiéter si on a la grande image du cycle depuis les années 60. C'est-à-dire que si moi je vous dis, écoutez, là on est très au-dessus de zéro, on est très au-dessus de l'équilibre, vous voyez, et on est même au niveau des prix de 87, donc l'avant-dernière crise financière américaine. Et vous me dites, à Manhattan et à Brooklyn, certains prix sont en train de descendre. Oui, c'est inquiétant. Ça veut dire qu'on pourrait avoir les prémices d'un début de crise immobilière. Et derrière une crise immobilière, il y a une crise financière qui se prépare.
Pierre Decaize, sur ces cycles financiers que vient de définir Anne-Laure de Latte.
Écoutez, effectivement, la distinction entre les cycles réels et les cycles financiers est importante. Et effectivement, Claude Boriot a mis l'accent sur ces deux types de cycles. Mais il faut surtout essayer de penser les liens très forts qu'il y a entre le réel et le financier. Ce ne sont pas deux sphères séparées. Et bien entendu, il faut comprendre comment le cycle réel peut amener... et être sous-jacent, en quelque sorte, à une crise financière.
Comment vous le définiriez, ce cycle réel, Pierre Decaize ?
Écoutez, il y a deux façons de le prendre, qui correspond à une vieille opposition essentielle dans l'économie politique. C'est du côté de l'offre et c'est du côté de la demande. Du côté de l'offre, l'idée fondamentale, c'est que lorsque l'investissement augmente, lorsque l'accumulation du capital se développe, normalement, et c'est toujours le cas, il y a une tendance à la baisse de la productivité du capital. Plus on met de machines, évidemment, moins chaque machine supplémentaire va avoir un rendement élevé. Et cela, on le trouve aussi bien dans les analyses des néoclassiques que dans l'analyse célèbre de Marx sur la baisse tendancielle du taux de profit. Alors, vous voyez, cette tendance à la baisse du rendement du capital, on peut aussi dire que c'est la tendance à la baisse de ce que Wicksell appelait le taux d'intérêt naturel, ou que Keynes appelait l'efficacité marginale du capital, c'est pendant la période d'expansion, il y a une baisse de cette efficacité marginale du capital, jusqu'au moment où le taux de profit devient trop faible, et à ce moment-là, on peut avoir, et on tend à avoir, une entrée en récession. Ça, c'est la dimension, si vous voulez, offre. Maintenant, la dimension des crises réelles côté demande, c'est tout simplement que lorsque l'accumulation du capital, l'investissement se développe, la demande ne suit pas. Et si la demande ne suit pas, c'est en particulier parce que la demande de consommation ne se développe pas suffisamment.
Et ça peut être lié à plein de facteurs.
Parce que les salaires n'augmentent pas. C'est très important de penser que si les salaires n'augmentent pas, la demande, aussi bien la demande des consommateurs que la demande d'investissement qui vient des entrepreneurs, devient trop faible. Alors à mesure que l'expansion se fait, la divergence entre la production qui continue de croître et la demande qui ne croît plus ou trop faiblement fait qu'il va y avoir à la fois surproduction et surinvestissement.
Alors
et
on comprend bien ces phénomènes.
Surproduction, c'est une crise qui va être liée à cette faiblesse relative de la demande.
On comprend bien ces phénomènes, Pierre Dequesse, et on va notamment voir dans un instant que les crises que le monde a connues au XXe siècle sont riches d'enseignements. On en parle dans un court instant.
Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence, la dernière fois que je ferme les yeux, mon dernier silence. J'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances, ça m'apparaît maintenant comme une évidence. Fini d'être une photocopie, fini la monotonie, la lobotomie. Aujourd'hui, je mettrai ni ma chemise ni ma cravate. J'irai pas jusqu'au travail, je donnerai pas la patte. Adieu les employés de bureau et leur vie bien rangée. Si tu pouvais rater la tienne, ça les arrangerait. Ça prendrait un peu de place dans leur cerveau étriqué. Ça les conforterait dans leur médiocrité. Adieu les représentants grassouillés qui boivent jamais d'eau comme s'ils voulaient pas se mouiller. Les commerciaux qui sentent l'aftershave et le cassoulet. Mettent la mayonnaise sur leur mallette, ils se la boufferaient. Adieu, adieu les vieux comptables séniles. Adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles. Adieu les jeunes cadres fraîchement diplômés qu'empileraient les cadavres pour arriver jusqu'au sommet. Adieu tous ces grands PDG. Essaie d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer. Ils font leur peur sur des salariés désespérés et jouent les vierges effarouchées quand ils se font séquestrer. Tous ces fils de quelqu'un, ces fils d'une pute snob qui partagent les trois quarts des richesses du globe. Adieu ces petits patrons, ces pauvres bourgeoisés qui grattent les RTT pour payer leurs vacances d'été. Adieu les ouvriers, ces produits périmés. C'est la loi du marché mon pote, t'es bon qu'à te faire virer. Ça t'empêchera d'engraisser ta gamine affreuse qui se fera sauter par un pompier qui va finir coiffeuse. Adieu la campagne et ses familles crasseuses proches du port au point d'attraper la fièvre rafteuse. Toutes ces vieilles, ces commères qui se bouffent entre elles, ces vieux radins et leurs économies bout de chandelle. Adieu ces France profondes, profondément stupides, cupides, inutiles, putrides. C'est fini, vous êtes en retard d'un siècle. Plus personne n'a besoin de vos bandes d'inceste. Adieu tous ces gens prétentieux dans la capitale qui essaient de prouver qu'ils valent mieux que toi chaque fois qu'ils te parlent. Tous ces connards dans la pub, dans la finance, dans la com, dans la télé, dans la musique, dans la mode. Ces parisiens jamais contents, médisants, faussement cultivés, à peine intelligents. Ces réplicants qui pensent avoir le monopole du bon goût, qui regardent la province d'un œil méprisant. Adieu les sudistes abrutis par
le soleil. Vous écoutez Suicide Social d'Orelsan sur France Culture dans Entendez-vous l'écho.
Vous écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Anne-Laure Delatte et Pierre Dequès sont toujours avec nous pour parler des cycles économiques, pour interroger la pertinence de ces cycles. Alors les étudier, cela permet de mieux anticiper et éventuellement d'empêcher l'apparition d'une nouvelle crise. On l'a vu, le krach de 1929 par exemple était riche d'enseignements.
Octobre 1929, la crise s'abat sur les États-Unis puis sur le monde. On a trop produit dans tous les genres et dans tous les pays. Les ateliers s'arrêtent, faute de clientèle. On détruit les produits en excédent. Le lait est jeté au ruisseau. Le café chauffe les locomotives. Le blé, qui ne trouve plus d'acheteurs, est précipité dans la mer ou consumé dans de vastes brasiers. Pendant ce temps, les chômeurs mourraient de faim s'ils n'étaient aidés par la charité publique ou privée. Dans tous les pays, les manifestations des sans-travail se multiplient. Aux États-Unis, les anciens combattants marchent sur Washington. En Angleterre, meeting monstre à Hyde Park. Grève et manifestations violentes en Belgique, où les femmes sont à la pointe du combat. En Allemagne, où la crise ébranle une économie encore bien fragile, les banques assiégées par le public sont réduites à fermer leurs portes. La France, qui semblait à l'abri et où l'or continuait d'affluer, est touchée à son tour en 1931.
Les conséquences du krach de 29, la crise économique et financière des années 30 aurait dû nous permettre de venir voir la crise de 2008, lors de l'AT.
Alors oui, en effet, il y a vraiment de nombreux points communs entre 29 et 2008, et en particulier cette phase d'exubérance financière, d'emballement des prix avant la crise. On était clairement au-dessus de l'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce que on n'a pas vu venir les choses et pourquoi on n'a pas réussi à les arrêter? Je crois qu'il y a vraiment un point essentiel, c'est on avait les données et on avait l'analyse. Il y avait plein de gens qui racontaient qu'on était au-dessus. Minsky, ça faisait 40 ans qu'on le connaissait. Et
Stabiliser une économie instable, le livre de Minsky sort dans les années
77.
80.
Oui, alors 82, mais voilà, c'est ses premiers, les premiers papiers, c'est 77. La BRI avait ses données en tête. Alors quoi? Pourquoi? Mais là, je crois qu'il faut vraiment... c'est de l'économie politique, c'est-à-dire que qui est-ce qui veut arrêter la musique quand tout le monde danse? Les Américains ont cette expression qui est « c'est pas moi qui vais retirer le bol de punch quand la fête est encore en route ». En fait, quand vous avez un emballement des prix, beaucoup de crédits, mais en réalité, vous êtes dans une phase d'économie réelle extrêmement positive. Le chômage baisse à ce moment-là, l'investissement est hyper important. Or, on est dans des cycles, pour le coup, politiques, démocratiques, qui font que vous avez des gens en place qui veulent être réélus. Donc, alors, loin de moi l'idée de critiquer la démocratie, mais il faut avoir ça en tête dans le sens où la fonction d'utilité de la personne qui est au ministère des Finances ou à la tête du gouvernement, elle est « je veux être réélu » et éventuellement, s'il y a un problème, il faut que ça se fasse après les élections. C'est vraiment... Trump, il a ça en tête, mais c'est pas seulement Trump, hein, d'accord ? C'est... Donc, vous avez cette interaction entre l'analyse, les données... tout le travail académique, scientifique qui est fait, mais ça n'est pas le bon timing. Vous avez des politiques qui vont vous dire « Ouais, non, mais attends, moi, je vais pas arrêter tant qu'on s'amuse. »
Mais la différence peut-être entre les deux crises, c'est la réaction qui s'en est suivie en 2008. La rapidité de la réaction des gouvernements a permis d'éviter une dépression, comme dans les années 30, Anne-Laure Delatte.
Oui, alors, pour moi, il y a vraiment deux différences dans la réaction aux crises. La première, c'est... Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, étant donné que les politiques étaient incapables d'arrêter ce cycle, on a mis en place des stabilisateurs automatiques. C'est-à-dire qu'on a mis en place des stabilisateurs par la politique macroprudentielle qui est isolée du politique. Le politique n'a pas à intervenir là-dedans, ou alors très peu.
Les politiques macroprudentielles visent à réguler la finance?
Voilà. Visent à réguler le cycle. Vraiment visent à réduire l'écart à l'équilibre. Et donc, que le ministre des Finances le veuille ou non, quand on est dans un niveau de crédit sur PIB qui est trop important, qui est très élevé par rapport au, à l'équilibre, les banques doivent mettre en place des fonds propres, enfin doivent augmenter leurs fonds propres, c'est-à-dire les coussins d'absorption qui vont leur permettre de subir une crise plus facilement. D'accord ? Leurs fonds propres, c'est leur argent à elles, quoi. Donc elles pourront rembourser les dettes. Donc ça, c'est un premier point, je crois, qui est essentiel à comprendre, qui est une vraie innovation. Jezabel Coupé-Soubéran, que vous avez reçue hier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les cycles financiers avec nous aussi au CEPI et qui travaille beaucoup sur la macroprudence.
Et ce qui se dit beaucoup, c'est que justement, ces mesures qui ont été prises après la crise de 2008, aujourd'hui ne seraient pas suffisantes en cas de nouvelle crise.
Bon, alors, ça... on les a mises en place et je pense qu'il ne faut pas les critiquer parce que il y a cette histoire d'isoler du cycle électoral, cycle politique qui est important. Après, est-ce que c'est suffisant? La deuxième différence avec 29, c'est que eh bien vous aviez Bernanke qui était le gouverneur de la Fed à l'époque, qui avait justement fait sa thèse sur la crise de 29 et qui comprenait très bien qu'il fallait mettre une politique monétaire exceptionnelle qu'on a appelée non conventionnelle. Hétérodoxe pour absolument refaire partir la machine. En gros, l'interaction entre la finance et l'économie réelle, c'est quoi ? C'est que une fois que vous avez cette baisse du prix des actifs, hein, l'immobilier, les titres, les actions, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des gens qui ont tellement accumulé de dettes pendant la phase d'emballement, qu'ils ne sont plus capables de les rembourser. Et donc, tout le système productif s'arrête. Parce que c'est qui les gens ? C'est souvent les entreprises. Il faut avoir en tête que dans une économie, les entreprises sont l'agent le plus endetté. D'accord ? C'est pas les ménages, c'est les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'elles financent leur investissement par la dette. Mmh. C'est comme ça que ça marche, notre économie.
Et donc, il faut réouvrir le robinet du crédit en cas de crise.
Exactement. Et qui est-ce qui le rouvre ? En fait, il est complètement fermé en 2008. C'est ce qu'on appelle la paralysie du marché interbancaire. Les banques ne se prêtent plus entre elles, les investisseurs ne se prêtent plus entre elles, entre eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous peur, ils savent pas ce qu'il y a dans les bilans de « est-ce que si je vous prête, vous serez capable de me rembourser demain ?» Je n'en sais rien. C'est vraiment l'incertitude radicale. Donc qu'est-ce que fait Bernanke à ce moment-là ? Le gouverneur de la Fed américaine, il dit « je vais ouvrir les vannes et je vais me substituer au marché ». C'est quelque chose, il a mis en place une politique monétaire absolument exceptionnelle. Et juste quelque chose qu'il faut avoir en tête encore, c'est que aujourd'hui, l'argent qui ce qu'on appelle le bilan de la banque centrale, c'est-à-dire l'argent qui circule dans nos économies, la liquidité est trois fois plus importante que en 2008.
Alors qu'est-ce que ça implique ?
Alors ça implique qu'aujourd'hui on a beaucoup d'argent on a beaucoup de liquidité dans l'économie. La liquidité, c'est ce qui rassure les agents, puisque allez vous prêter, sachant que je ne sais pas trop quel bilan vous avez, qu'est-ce que vous avez, ce que vous allez être capable de... Bon, j'aime pas trop ça. Alors du coup, moi, je vais plutôt prêter que à des agents qui sont extrêmement sûrs. C'est qui ? Bah, c'est la banque centrale, c'est le gouvernement allemand. Donc c'est soit je vais aller vers de la liquidité, soit je vais aller vers des obligations extrêmement sûres, des gouvernements extrêmement sûrs. Alors, on a fait ça. La Banque centrale s'est même substituée quasiment aux investisseurs en achetant sur le marché secondaire des titres d'entreprise. Enfin, on n'avait jamais fait ça. On a sauvé le monde, entre guillemets, hein, en 2008. La Banque centrale européenne s'y est mise aussi, tard, un peu trop tard. Ça a été souligné, mais on a sauvé, entre guillemets, le monde. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a préparé la nouvelle crise.
Alors, de quelle façon, justement ?
Bien, en fait, il y a tellement de liquidités dans l'économie qu'il fallait bien en faire quelque chose. En fait, vous aviez des investisseurs qui avaient beaucoup d'argent à investir. Mais les investisseurs, encore une fois, c'est vous et moi. Hein. Enfin, c'est l'épargne. Alors après, cette épargne très importante, très abondante, elle a pu se concentrer sur des très hauts revenus, d'accord ? Qui avaient beaucoup d'argent à investir. Et où est-ce qu'on investit ? Bien, dans la dette. Encore une fois, vous allez prêter de l'argent à certains agents pour qu'ils puissent investir. Mais une fois que vous avez, si vous avez vraiment beaucoup d'argent à investir, vous avez épuisé toutes les obligations allemandes, françaises, suisses, c'est-à-dire toutes les obligations qui sont extrêmement sûres, ce qu'on appelle les safe havens, les refuges, les valeurs refuges. Une fois que vous avez fait ça, ben vous allez ailleurs. Et vous allez aujourd'hui, apparemment, ce qu'on est en train de comprendre, c'est que la dette, le niveau de dette des entreprises est extrêmement élevé. En fait, les entreprises se sont endettées non pas par le crédit bancaire, parce que le crédit bancaire, il a été à peu près maîtrisé par la politique macroprudentielle dont je vous parlais tout à l'heure, mais les entreprises ont été capables d'émettre beaucoup de titres, d'obligations, de dettes que les investisseurs ont achetées. Mais alors là, on est vraiment dans une phase d'emballement. Vous avez, apparemment, c'est assez facile d'émettre des obligations si vous êtes une entreprise américaine, asiatique, argentine, et c'est partout dans le monde.
Et c'est là peut-être que, à nouveau, la théorie peut nous aider à bien comprendre les travaux de l'économiste américain Irving Fisher, qui cherche, dans les années 30, à fournir une explication à toutes les dépressions. En quoi est-ce qu'il nous aide à mieux comprendre, peut-être, la situation économique dans laquelle on se trouve aujourd'hui, Pierre Dequesse?
Oui, Irving Fisher a certainement été un des plus importants penseurs de la crise des années 30, avec sa théorie de la déflation par la dette. Il faut dire d'ailleurs que Fisher, au départ, s'était complètement planté. Il avait pas vu venir du tout la crise, et même dans la crise financière et boursière, il continuait de dire que ça allait monter, que les cours allaient monter. Mais en 33, il a mis au point une théorie nouvelle et révolutionnaire de la déflation par la dette qui permet de comprendre à quel point une dépression peut être dangereuse, dans la mesure où, au moment où tout le monde, lors de la crise, au moment où tout le monde s'efforce de rembourser ses dettes, on assiste simultanément à un accroissement du poids réel des dettes. C'est un phénomène exactement inverse de celui qui est bien connu, de la diminution du poids réel des dettes avec l'inflation.
Et la baisse généralisée des prix entraîne un alourdissement de la dette.
C'est ça, exactement. Aussi bien pour les prix des biens que pour les prix des actifs. En d'autres termes, la valeur de la monnaie augmente, on est en déflation. Et le mot déflation, c'est ça qui s'est produit dans les années 30 et c'est ça qui nous menace aujourd'hui. Et la preuve en est que nous sommes pour la première fois de l'histoire du monde dans une situation où les taux d'intérêt à 10, 20, voire 30 ans, sont négatifs. Cela signifie que les anticipations sont des anticipations d'augmentation de la valeur de la monnaie, que les anticipations sont des anticipations de baisse des prix, ce qui explique que les agents économiques acceptent ces taux d'intérêt négatifs parce que on remboursera avec une monnaie qui vaut encore plus cher, du moins dans les anticipations. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi, dès lors, sommes-nous dans cette situation où la déflation menace, comme elle a jamais menacé peut-être, puisque les anticipations sont là et sont déflationnistes? Eh bien, c'est tout simplement parce que la demande globale, à l'échelle mondiale, aujourd'hui, est trop faible.
Alors, on comprend bien ce qu'Irving Fisher a apporté théoriquement, et peut-être que c'est intéressant de voir que Minsky va un petit peu plus loin, Anne-Laure Delatte, et notamment dans son hypothèse d'instabilité financière. Il parle de l'irrationalité des agents économiques, les agents qui sont à la fois les consommateurs et les entreprises, au moment de cette fameuse phase d'exubérance financière dont vous parliez.
Oui, alors effectivement, il parle d'une phase d'emballement, de panique et puis de crise. C'est compliqué de parler d'irrationalité totalement pour les agents dès qu'il s'agit de leur argent, parce que à la fois vous avez effectivement des comportements qui peuvent être jugé irrationnel, du type mimétisme. Ça avait été mis en évidence par Keynes et ensuite par Minsky, c'est-à-dire que je préfère avoir tort avec tout le monde que raison tout seul. Ça, c'est vraiment ce qui se passe sur les marchés financiers, c'est que même si la valeur d'Apple n'est pas exactement celle que elle reflète pas ses fondamentaux, si tout le monde pense que c'est sa valeur, ou si tout le monde pense que ce sera sa valeur, alors j'ai intérêt à l'acheter. Donc ça, c'est du mimétisme, ça fait partie des comportements irrationnels que effectivement Keynes puis Minsky met dans sa théorie de l'instabilité financière. Avec plusieurs types d'agents. Moi, j'ai juste du mal à parler d'irrationalité vraiment totale, dans le sens où quand il s'agit de portefeuilles financiers, vous avez une certaine rationalité, hein, une recherche de rendement qui fait que vous n'allez pas faire complètement n'importe quoi. Donc tout ça a été très bien expliqué, notamment par Schiller, bien après, qui a eu le prix Nobel il n'y a pas très longtemps. Donc vous avez des comportements irrationnels qui peuvent faire que vous avez des phases d'emballement et alors ensuite, tout d'un coup, un point focal, hein, il suffit d'un événement pour que tout le monde revende ses titres. Donc 2008, ça commence par Bear Stearns et c'est évidemment Lehman Brothers. Donc vraiment Bear Stearns, quelques mois avant, on s'inquiète, mais on arrive quand même, le banquier central intervient, on arrive à peu près à échapper à ça. Et là, Lehman Brothers, de septembre, le fait que le banquier central que les autorités américaines ne sauvent pas Lehman Brothers, c'est vraiment le point focal sur lequel les agents vont se dire d'accord, là on est passé dans un autre monde.
Vous diriez, Anne-Laure Delatte, que la finance amplifie les cycles économiques, rend les crises plus graves, ça c'est incontestable.
Alors, on travaille là-dessus. Moi j'en suis convaincue. Et on essaye d'amener des données là-dessus. C'est-à-dire que, d'une part, les cycles financiers sont plus longs que les cycles d'économie réelle. Les cycles financiers sont à peu près d'une quinzaine d'années. Ils sont beaucoup plus amples. D'accord? C'est vraiment, c'est plus ample. C'est-à-dire que quand vous avez une crise, c'est une grosse crise. Et quand vous avez une bulle, c'est une grosse bulle. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement encore dans cette question de l'interaction entre la finance et l'économie réelle, de comprendre si, effectivement, la finance, au final, est-ce que c'est bon ou pas ? Est-ce que le fait d'être dans une économie où on ne vit que par endettement et où l'investissement est financé essentiellement par l'investissement, est-ce que c'est bien ou pas ? Ça, c'est un côté très positif, hein, encore une fois. On peut financer de l'innovation pour les médicaments, pour l'éducation, pour nouvelles infrastructures. Mais est-ce que le prix à payer, il est d'avoir des crises économiques beaucoup plus profondes, où là, en plus, non seulement on a des crises plus profondes, mais un phénomène d'hystérésie. L'hystérésie, c'est quoi ? C'est que on met de plus en plus de temps à revenir à l'équilibre. En fait, vous avez vous avez dans les ménages, des ménages qui vont très bien s'en sortir, les hauts revenus bien éduqués, ils vont soit ne pas être impactés par la crise, soit revenir très vite dans un marché du travail qui est bien fait pour eux. Mais tous les ménages qui n'ont pas d'épargne, qui ont une éducation qui n'est pas en lien avec la demande du marché du travail, eux, ils mettent énormément de temps à revenir.
Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Je voudrais entendre peut-être votre conclusion, Pierre Dequet. C'est peut-être sur le fait que vous ne parlez pas effectivement de cycle économique, mais de rythme économique. Vous ne croyez pas finalement, Pierre Dequet, à la régularité des cycles et ce que l'on vit en ce moment, la situation économique actuelle le prouve.
Oui, bien entendu, il faut faire très attention. Les hommes politiques, d'ailleurs, on peut penser à François Hollande ou d'autres, qui ont cru à la réalité d'un cycle très précis, se sont généralement fourvoyés dans leurs prévisions. Donc, il faut être très prudent. On ne sait pas, et il est très difficile de savoir quand le retournement va avoir lieu. On sait qu'il va avoir lieu, mais évidemment, la date et l'heure, on ne peut pas le savoir.
En l'occurrence, l'expansion malgré que les États-Unis connaissent n'a jamais été aussi longue.
On a une phase d'expansion qui a été relativement molle. Ne croyons pas que ça a été un boom depuis 11-12 ans. Mais cette phase a été très longue. Phase d'expansion qui est jusqu'ici, dans les statistiques du NBER, la plus longue depuis qu'il y a des statistiques.
À tel point qu'on a
indéniablement, on a une phase d'expansion. Alors si on se dit, après l'expansion, on aura forcément une phase de récession, bien sûr. Mais on ne sait pas exactement quand. Et les politiques qui sont censées relancer une économie, alors même qu'elle est déjà à un moment où l'expansion a duré 10 ans. Ces politiques sont loin d'être absurdes, parce qu'on vit une époque, ne l'oublions pas, où il n'y a pas d'inflation, où l'inflation a purement et simplement disparu sur les biens, sur les marchandises.
Alors il y aura encore beaucoup de choses à dire.
On peut très bien imaginer une possibilité de prolonger cette expansion encore quelques années. Il n'y a pas de fatalité.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les deux. C'est l'heure de retrouver Xavier Martinet pour le journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Stéphane.
La nouvelle Europe industrielle s'invite au MEDEF. Le ministre de l'économie allemand Peter Altmaier s'y trouvait hier et il a été question cette fois d'un Airbus de l'intelligence artificielle.
Oui, c'est ça. Avec Altmaier et le français Bruno Le Maire, les deux ministres venus plaider face au patron pour plaider cette fois donc la cause d'une industrie numérique européenne. Bruno Le Maire de son côté annonce un plan franco-allemand pour, je cite, une filière européenne de stockage de données et pour accélérer les développements de l'intelligence artificielle. De son côté, Altmaier appelait à, je cite encore, une infrastructure souveraine de données, comprendre donc construire des entreprises numériques capables de rivaliser avec Google, Amazon aux USA ou Baidu ou Tencent en Chine. La France et l'Allemagne ont déjà présenté leurs plans nationaux. Dans le sien, la France identifiait déjà des grandes entreprises partenaires. Plan européen à venir dans quelques mois, oui, lui, mais la somme des financements nationaux de 4,5 milliards n'est pas énorme. Mais en tout cas, la route sera longue, explique Sébastien Jean, le directeur du CEPI.
Dans tout ce qui est nouvelles technologies autour de l'informatique, de l'Internet, etc., les Européens brillent plutôt par leur absence. Nous n'avons pas les big tech, les géants de l'Internet en Europe. Et donc, il y a une vraie perplexité, une inquiétude sur la capacité de l'Europe à exister dans ces secteurs qui sont stratégiques pour l'avenir, en termes économiques et au-delà, qui d'ailleurs sont des secteurs d'innovation radicale, qui traditionnellement ne sont pas les points forts de l'économie européenne. Donc, il y a la volonté d'avoir une Europe qui conserve sa souveraineté, son autonomie, sa capacité de manœuvre dans ces domaines. Mais il faut bien reconnaître en même temps que les montants que vous avez évoqués, ils pâlissent ou ils paraissent presque modiques par rapport aux capitalisations et même aux liquidités dont disposent les géants du net, que ce soit aux États-Unis ou en Chine d'ailleurs.
Les deux ministres, Le Maire et Altmaier, avaient d'ailleurs publié un manifeste commun pour une Europe de l'industrie l'année dernière.
Oui, en fait, c'était cette année, je me suis trompé dans ce que je vous ai écrit, ce manifeste. Mais en tout cas, il prévoyait des investissements massifs, mais aussi, et peut-être surtout, là, une adaptation des règlements européens à la concurrence et des règles commerciales, préoccupations montantes. Côté financement, en tout cas, on sait que pour l'Airbus des batteries, c'était 5 à 6 milliards qui étaient prévus. Et puis là, surtout, un groupe de 5 pays, de l'Italie au Danemark, étaient prêts aussi à investir.
On passe au bref. Un géant américain en difficulté, Boeing pourrait aller au devant d'ennuis judiciaires coûteux après les accidents de son 737 MAX.
Oui, c'était dans le Financial Times cette semaine. Une compagnie de leasing aérien russe a déposé plainte contre le constructeur américain, dont deux de ses avions dernier cri s'étaient écrasés après le décollage en octobre et mars dernier à cause d'un problème informatique. Alors, dès juillet, le constructeur avait mis en place un fonds de soutien pour les victimes, mais cette fois, l'accusation d'un de ses gros clients est plus grave. La compagnie russe déplore que 35 exemplaires de cet avion soient cloués au sol depuis mars, mais surtout, elle accuse Boeing de rétention d'informations critiques, c'est-à-dire d'avoir, elle l'écrit elle-même, intentionnellement omis d'informer ses clients. Plainte à suivre donc.
Le Japon investit en Afrique et fait la promotion de ses prêts de qualité.
Oui, les mots du Premier ministre Shinzo Abe lors de la 7e TICAD, conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, en présence de chefs d'État du continent, dont les présidents égyptiens Sisi et sud-africain Ramaphosa. Les deux dirigeant de deux des principaux partenaires du Japon, et Tokyo cherche justement à diversifier ses partenariats, si possible accuser à demi-mot la Chine de proposer des prêts trop lourds. Et d'ailleurs, elle a décidé de mettre à disposition de 30 pays africains des experts en gestion de dette pour les trois prochaines années.
Et d'un mot, le spectre du défaut de paiement de nouveau en Argentine. En tout cas, elle veut plus de temps pour payer sa dette.
Oui, dette énorme, 57 milliards de dollars de prêts du FMI contractés l'année dernière. Le ministre des Finances, Hernán Lacunza, a demandé hier un répit. Apparemment, le FMI dit comprendre le besoin de liquidité du gouvernement. C'est vrai que l'Argentine est en récession, inflation énorme 30%, le peso qui a perdu plus de la moitié de sa valeur. Pour l'instant, le ministre des Finances a choisi de calmer les marchés, mais pas la rue qui manifeste toujours.
There's an evening haze
Working Man's Blues de Bob Dylan. Merci beaucoup Anne-Laure Delatte et Pierre Dauquez de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et merci aux techniciens des bureaux de Radio France à Nice qui ont permis ce duplex. Demain, on se demandera si l'Union européenne peut imposer des traités commerciaux plus verts. They say low wages are reality if we want to compete abroad.